Marchande de sable, mouche s'en va en guerre de Erika Sertón.
Le cha-cha auvergnat, le latino se joue, veut dire la fête, et de partout l'on danse sous ces airs-là.
Chapitre 10. Mouche fait d'autres découvertes. Mouche replia soigneusement la page de journal et la remit dans le livret militaire. Mais elle ne voulait pas l'emporter avec elle, ni que Madame Cortisol le découvrît en son absence. Elle estimait que le bénéfice de sa trouvaille devait lui revenir directement, avec tous les avantages d'amour-propre, quand elle aurait fait prendre le voleur et qu'elle aurait surtout une preuve irréfutable que c'était lui qui avait cambriolé le petit musée. C'était cette preuve qu'elle voulait découvrir toute seule, pour donner un démenti fulgurant à tous ces gens qui, de bonne foi peut-être, s'étaient avisés de la suspecter. Elle déjeuna rapidement et partagea encore la tarte qu'elle avait pour dessert avec Quick, car le bon caniche allait être obligé de rester enfermé, une fois de plus. Elle n'aurait jamais pu se dissimuler dans la forêt avec un compagnon aussi épris de vagabondage. Elle fit le tour de sa chambre à la recherche d'une cachette sûre pour le livret. Sous le matelas, c'était trop connu, trop facile à découvrir. La femme du brigadier avait dû visiter le lit de fond en comble pour s'assurer qu'une nouvelle coupe ou un autre objet ne s'y trouvait pas. Non, décidément, cette pièce n'offrait aucun recoin utilisable dans ce dessin. Elle ouvrit la porte et regarda dans l'étroit escalier. Mouche sourit alors. Elle avait trouvé la bonne cachette. Il y avait, suspendu à un des murs latéraux, le grand cadre d'une gravure représentant un épisode de la guerre de 1870, la maison des dernières cartouches. Il suffisait de glisser doucement le livret entre le cadre et le mur, et bien malin qui songerait à venir le chercher là. Revenant à sa chambre, elle s'assit dans le fauteuil pour réfléchir. Quelqu'un frappa à la porte. C'était Jacotte, qui lui sourit et l'embrassa, ce qui toucha la fillette. « Je sors avec ma sœur, » lui dit-elle. « Veux-tu que nous emmenions Quick ? Il a gémi toute la matinée parce que tu l'avais laissé seul. » « Excellente idée. J'ai justement des courses importantes à faire cet après-midi et n'aurais pu le prendre avec moi. » Mouche avait prononcé ces mots d'un air grave, certaine qu'il serait aussitôt répété au brigadier ou à sa femme. « Très bien, » reprit Jacotte, « je te le ramènerai ce soir. À quelle heure rentreras-tu ? » ?»« Probablement pas avant 6 heures. Nous serons de retour avant, mais nous le garderons en bas. » Mouche posa alors la question qui lui brûlait les lèvres. « Et le pauvre Zinzin, l'a-t-on revu ?»« J'ai entendu dire à la fille du boulanger qu'il travaillerait toute la journée dans le hangar de Monsieur Bigot. » Elle remercia chaleureusement Jacotte, car c'était un utile renseignement. Quand la petite fut partie avec Quick, lequel n'avait pas l'air enchanté, Mouche sortit à son tour. Elle avait du temps devant elle, mais était prise de cette agitation nerveuse que l'on ressent avant de réaliser une action importante. « Je vais emporter de la lecture dans la forêt, » se dit-elle. « Si quelqu'un m'aperçoit, j'aurai une attitude naturelle pour une écolière en vacances. » Elle prit un cabas, y mit 2 livres et une publication illustrée, un petit sachet de papier contenant la tablette de faux chocolat complètement émiettée, et enfin la lampe électrique de Christophe, qui allait lui permettre de pousser son enquête plus à fond. Mouche fit jouer le bouton nickelé pour l'allumer et l'éteindre 2 ou 3 fois afin de s'assurer de son bon fonctionnement. Puis, son baluchon prêt, elle descendit l'escalier non sans lancer une œillade malicieuse au vieux cadre qui détenait son secret. Jacotte lui avait dit que Zinzin travaillait dans la maison du père Bigot. Il fallait avant tout vérifier l'exactitude de ce renseignement, ce dont elle pouvait s'assurer sans se faire voir. Elle gravit lentement la colline et fit un détour dans la forêt pour arriver directement auprès de la porte du hangar qui était sur le côté. Zinzin était bien là, assis sur le billot de chêne qui servait à couper les branches. Il avait sur les genoux une écuelle d'étain dont il dévorait gloutonnement le contenu. Son pied droit reposait sur le manche d'une grosse hache et il avait à côté de lui un tas de bois déjà débité. Mais n'allait-il pas s'en aller quand son repas serait terminé ? Mouche en aurait profité pour le suivre. Cependant, elle préférait qu'il restât plus longtemps à la maison des Bigots. Elle alla s'asseoir sur un carré de mousse et, masquée par un taillis, ouvrit un livre et attendit. Ce fut une curieuse lecture, car si la fillette avait tenu son livre à l'envers, elle ne s'en serait sans doute pas aperçue, tant elle était absorbée par l'écoute des moindres bruits venant de la villa. Tout à coup, la voix de Bigot se fit entendre, et quelques secondes plus tard, des coups de hache retentissaient. Le propriétaire de la maison ne laissait guère de répit à ceux qui l'employaient. Ne voulant rien laisser au hasard, elle tint à s'assurer que c'était bien l'innocent qui avait repris le travail. C'était probable, mais il valait mieux en avoir la certitude. Comme elle se rapprochait, les coups de hache cessèrent, mais la voix de Bigot s'éleva encore, grondeuse. « Eh bien, paresseux, tu es déjà fatigué? Je t'ai bien nourri, n'est-ce pas? Alors fais ton boulot, tu ne partiras que quand ce sera fini et je vais rester pour te surveiller. D'ailleurs, t'es payé jusqu'à 7h ce soir, t'auras toute la journée de demain pour te reposer. » Pauvre Zinzin va finir tout ça, allez, monsieur Bigot, fit la voix traînante de l'innocent. Et que ce soit bien fait, hein, si tu veux pas de coups de botte. Le cœur de mouche s'était peut-être endurci pour la circonstance, mais la menace de ce châtiment corporel ne l'indigna pas. Elle partit en trottinant allègrement. Cette fois, elle avait les mains libres et ne risquerait pas de rencontrer l'innocent, puisqu'il était rivé à sa tâche. Mouche retourna d'abord à l'espace dégagé, où elle avait trouvé la fausse tablette, car elle voulait inspecter le sol plus minutieusement. Elle y fut en quelques instants, mais n'eut pas à se livrer à une longue enquête. Deux vieilles chemises kaki étaient suspendues aux branches lisses qu'elle avait remarquées la veille. C'était donc un séchoir à linge. Mais elle s'agenouilla quand même pour regarder par terre. Elle découvrit un autre fragment de tablette et d'autres débris analogues, mais plus petits. Ils étaient donc tombés de quelque chose suspendu au mur. Parbleu, l'explication en était facile. La tablette n'était que de la boue appliquée sur une ceinture, et en séchant, s'était détachée de la lanière dont elle avait conservé l'empreinte. Des petits poils, points saillants avaient été formés par les trous dans lesquels elle devait passer l'ardillon de la boucle. De là, les autres morceaux plats. Mouche était convaincue que cette boue sèche provenait de la même source qui avait inondé ses petits camarades. Or, la ceinture était restée fixée à une culotte, sinon il n'eût pas été utile de la pendre à une branche aussi haute. Et son propriétaire s'était sali, sans nul doute, en interrompant la coulée de boue et en colmatant le trou aussi soigneusement. Christophe l'avait bien dit, c'était quelqu'un connaissant l'emplacement de la source boueuse qui avait pu faire cesser l'inondation. Quand elle avait tendu l'oreille à l'entrée du second souterrain, elle avait nettement aperçu un glou-glou significatif. N'était-ce pas là la clé du mystère ? Il fallait donc qu'elle aille sans tarder visiter la sombre galerie et elle pourrait être renseignée sur bien des choses. 2 heures sonnèrent au village. Le rythme habituel des coups de hache annonça que les bûcherons s'étaient remis au travail. Elle pouvait pousser plus loin son exploration. Comme elle ne distinguait pas le gros chêne par-dessus les autres arbres, elle reprit le sentier couvert et refit, à 4 pattes, le chemin déjà parcouru la veille. Cette fois, la distance lui parut beaucoup plus courte. Elle passa devant le trou qui recelait la musette, puis déboucha dans la clairière, sous le grand arbre. Les branches mortes masquant l'entrée étaient toujours là. Elle les déplaça de nouveau, alla mettre son cabas derrière le chêne, puis la lampe électrique à la main se glissa à genoux dans le souterrain. La galerie basse, au bout de quelques mètres, allait en s'agrandissant et la fillette put se mettre debout sans se cogner la tête. Un petit élargissement circulaire se présenta dans le faisceau de la lampe électrique et Mouche vit sur le sol, contre la paroi, plusieurs rondins de bouleau comme ceux qu'elle avait trouvés, fendus dans la longueur. 2 d'entre eux étaient creusés comme l'avait expliqué Christophe. L'homme avait donc voulu fabriquer des petits bateaux, mais un autre rondin était intact. Il le paraissait du moins, car en le regardant de plus près, la fillette s'aperçut que les deux moitiés avaient été recollées l'une contre l'autre avec de la boue. Il en ressortait un petit filet tout le long de la cassure, ainsi qu'aux extrémités, aux endroits où avaient été donnés les coups de scie. Tiens, fit-elle, ma supposition était exacte. C'est une façon de faire une sorte de grosse boîte ou de long étui en rapprochant les deux côtés. Mouche projeta de nouveau le faisceau de la lampe autour d'elle. En prolongement droit du premier couloir s'en ouvrait un autre, plus large et un peu plus haut, et au bout duquel elle entendait un ruisseau couler. Se remettant à 4 pattes, elle s'engagea dedans, mais n'eut pas loin à aller. Le conduit aboutit presque aussitôt à une sorte de marche étroite qui bordait une véritable rivière de boue. Sur le petit rebord étaient plantés de longs clous de fer, de la largeur d'un crayon, et à chacun d'eux était attachée une grosse ficelle qui descendait dans l'eau, comme si un pêcheur avait installé des lignes de fond pour prendre des poissons. Mouche se mit à plat ventre pour être plus à son aise, car elle eut la curiosité de tirer sur une des ficelles afin de voir quel genre d'appât il pouvait y avoir au bout. Ce fut assez lourd, et elle fit sortir de l'eau jaunâtre une sorte de théière toute boueuse. Posant la lampe à côté d'elle pour l'éclairer, elle prit sa trouvaille à deux mains. C'était en vérité une théière bizarre, plutôt une cafetière comme celle qui était au Havre dans l'argentier de son oncle et que ce dernier affirmait fort ancienne. La grattant un peu avec son ongle, elle fit apparaître un petit point brillant. La rivière de boue servait donc à recouvrir d'une croûte brunâtre des objets d'argent ou d'or. Mais oui, c'était ainsi que le vilain bol que lui avait donné Zinzin s'était révélé être une coupe précieuse. Et ces boîtes ingénieuses, faites en rondins de bouleau, étaient destinées à les enfermer ensuite pour qu'on puisse les sortir devant les yeux de tout le monde sans faire soupçonner que le morceau d'arbre pouvait contenir quelque chose d'autre. Il y avait encore 6 ficelles comme celles qu'elle venait de tirer. Elle les souleva les unes après les autres et vit émerger un petit coffret, une boulette qui se trouva être une bague à gros chatons, 2 nouvelles coupes en forme de calice, une grande cuillère et une sorte de couteau. Elle ne s'avisa pas d'y toucher davantage et les laissa redescendre dans le cours d'eau, puis revint en arrière en se heurtant la tête à plusieurs reprises dans sa précipitation. Jetant un dernier regard au rondin, elle sortit du trou et replaça les branches sur l'entrée. Puis, ouvrant son cabas, elle y remit sa lampe électrique et partit vers le ravin sec. Tout était devenu aussi clair que la boue l'était peu. Les coups de piolet avaient détourné le ruisseau et le voleur ne pouvait plus y plonger le fruit de ses rapines. C'était pour cela qu'il avait rebouché la cassure et refermé soigneusement l'orifice afin que nul ne s'aperçoive qu'il avait existé. Soudain, le cœur de Mouche se mit à battre si fort qu'elle dut s'asseoir. Elle était rayonnante, mais éprouvait quand même une sorte de peur. Si le voleur s'apercevait qu'elle avait découvert son odieux manège, il n'hésiterait sans doute pas à devenir un assassin. Et pour ce qui était de se battre avec lui, la pauvre petite n'était pas assez forte. Les bûcherons accourraient probablement à ses cris, mais arriverait-il à temps pour la secourir ? Son seul refuge possible lui parut être la colonie de vacances. Là, au moins, elle pourrait trouver des défenseurs. Elle prit ses jambes à son cou, dévala le ravin, contourna la plateforme et courut en descendant le raidillon au risque de se casser la tête. Mais la Providence veillait sur elle. Les pierres roulèrent bien sous ses pas. Cependant, elle arriva en bas saine et sauve. Il n'y avait pas de garçons à la colonie. Tous étaient partis en promenade. La femme du gardien qui était à l'entrée l'accueillit aimablement. « Vous venez voir nos jeunes pensionnaires, » lui dit-elle. « Ils sont au village voisin et ne reviendront pas avant une bonne heure. Vous feriez mieux de repasser plus tard. »« Madame, si cela ne vous gênait pas, j'aimerais tant que vous me permettiez de les attendre ici. »« C'est bien facile, venez dans le bureau de mon mari, au premier baraquement. Il y a un bon fauteuil et vous y serez tout à fait tranquille. Voulez-vous que je vous prête un livre ?»« Merci, ce n'est pas la peine, j'en ai justement 2 dans mon cabas. »« Parfait !» J'espère toutefois que vous n'attendrez pas assez longtemps pour les lire jusqu'au bout. » Mouche s'installa dans le fauteuil et la brave femme se retira. Elle se sentait plus à son aise dans ce bâtiment de bois où le voleur ne pourrait pas venir la chercher. L'esprit calme, elle ne pensa plus qu'à son triomphe. Ha ! Les gendarmes ne savaient pas ce dont elle était capable. Eh bien, ils allaient l'apprendre pour leur plus grande satisfaction d'ailleurs. Et elle, Mouche, serait bien vengée. Ah oui, le télégramme, il pourrait le refaire, le brigadier Cortisol, et remplacer ses termes sévères par des phrases de félicitations. Mais cette gloriole excessive, qui n'était pas dans sa nature, lui passa vite. Les gendarmes, après tout, avaient fait leur devoir. Si elle avait été à leur place, aurait-elle été aussi indulgente pour une petite fille que tout accusé, y compris Zinzin et les gens du village ? Et elle riait d'avance en pensant à la tête qu'il ferait quand elle se promènerait fièrement avec Jacotte et Martine, sans oublier Quick, bien entendu. Elle attendit si longtemps que la nuit commençait à tomber quand les garçons revinrent à la colonie. Comme elle sortait pour aller au-devant d'eux, ses amis se précipitèrent vers elle. « Tu as de nouveau, Mouche ?» demanda Polo. « Je te crois, j'ai tout découvert dans la forêt, tous les objets volés, et l'histoire de la source de boue. J'ai rapporté la lampe électrique, mais il me la faudra sans doute encore demain. »« Vous pouvez la garder, » répondit Christophe. « Et le voleur ? Il n'y a plus qu'à l'arrêter. » « Bien sûr, » déclara Polo, « mais ne crois-tu pas qu'il faudrait le dire à Monsieur Cortisol ?»« Comme je sais où prendre le brigand, ce serait bien plus intéressant de le faire nous-mêmes et de le remettre aux mains des gendarmes ensuite. Tout à fait grand sport, en effet. Mais quand ? De bonne heure, demain matin. Je compte sur vous, bien entendu. Naturellement, tu peux être certaine qu'on sera là, claironne Apollo. Et tous encore. Oui, tous, clamèrent une trentaine de voix jeunes et sonores. Mouche, surprise, tourna la tête. Elle était si absorbée qu'elle n'avait pas remarqué que tous les gosses du premier baraquement faisaient cercle autour d'eau. Très bien, fit-elle alors. Je vous remercie. Vive Mouche ! Hurlèrent alors les garçons. Le chef du camp, attiré par le bruit, vint voir quelle en était la raison. Pourquoi tout ce bruit ? Demanda-t-il à Christophe. Mouche a besoin de nous demain matin pour arrêter son voleur, monsieur. Elle nous demande de l'aider, alors nous espérons bien que vous le permettrez. C'est l'histoire dont vous m'avez parlé. Attention, je suis responsable de vos existences, cela risque d'être dangereux. Non, je vous le remets, répondit Mouche, je vous le remettrai tout ficelé. D'ailleurs, les gendarmes de Chavagna seront là aussi. J'aimerais beaucoup mieux qu'ils agissent seuls. Mouche prit un air consterné. C'est grâce à Christophe, Polo, Alex et Francis que j'ai pu trouver la piste du voleur, insista-t-elle. Alors ce serait dommage qu'il ne soit pas là pour la finale. Cela nous amuserait tant, ajouta Christophe. Et nous aussi, monsieur, insistèrent les autres garçons. Écoutez, je ne peux pas vous dire non, puisque votre jeune ami me le demande. Mais j'irai avec vous et vous obéirez strictement à mes ordres. Parfait, s'écria Mouche. Comme ça, c'est gagné. Le chef du camp n'en était pas aussi sûr, mais bien décidé à surveiller de très près la jeune troupe, il ne s'opposa pas à une expédition qu'il ne prenait guère au sérieux. « Je vous remercie beaucoup, monsieur, » lui dit Mouche. « À demain, donc. » « Oui, » reprit Christophe, « mais il fait nuit maintenant. Cela ne va pas vous gêner pour rentrer ?»« Ma foi, » avouait-elle, « pour cette fois, j'ai assez peur de retourner au village toute seule. »« Elle n'a pas son chien Quick pour la garder, » dit Polo. « Dans ce cas, » fit aimablement le chef, « vous allez dîner ici avec nous et après, une de nos équipes vous raccompagnera. » Mouche accepta avec joie. Le repas fut gai, mais on y bavarda peu. Tout ce petit monde, sans cesse affamé, préférait mettre les bouchées doubles plutôt que de raconter ou d'écouter des histoires. Christophe réunit une douzaine de ses camarades et la jeune bande, entourant la fillette, prit le chemin du village. Naturellement, le groupe se mit à chanter en y arrivant. Les volets du rez-de-chaussée de la première maison s'ouvrirent et une tête curieuse se montra. Mais ils furent violemment refermés quand le villageois aperçut le visage de Mouche. « Encore un qui me prend pour une voleuse !» s'écria-t-elle en riant. « Ils sont tous rudement bêtes dans ce patelin-là !» déclara Polo d'un ton méprisant. Le brigadier Cortisol, inquiet du retard de sa pensionnaire, faisait nerveusement les 100 pas devant la porte. Il eut un geste de soulagement en la voyant arriver escortée par les garçons de la colonie. « Alors » grommela-t-il, « il ne fallait plus revenir !»« Si !» répliqua Mouche ironiquement. « C'est parce que j'ai préféré rentrer que je me suis fait accompagner par tous mes amis. »« Votre dîner est froid !»« Cela n'a pas d'importance, j'ai été invité par mes amis. » Et à part cela, reprit Cortisol, dont le ton ne s'adoucissait pas, vous n'avez rien à me dire.
À quel sujet ? Fit Mouche malicieusement.
Au sujet des objets volés, parbleu ! Vous savez maintenant ce qu'ils sont devenus ?
Oui, je les ai retrouvés, probablement tous.
Où sont-ils en ce cas ?
Dans la forêt, j'ai découvert la cachette du voleur.
Tiens, il y a donc un voleur ?
Oui, brigadier, et quoi que j'ai encore jusqu'à demain soir, je vous le livrerai dès demain matin.
Elle a même dit qu'elle vous le remettrait tout ficelé, intervint Polo. Et on en mettra un vieux coup pour cela avec elle. Garde tes balivernes, gronda Cortisol. S'il existe et que vous sachiez où il est, ce voleur, dites-moi que j'aille mettre la main dessus.
Pas du tout, protesta Mouche. Je tiens à terminer cette affaire moi-même. D'autant plus que je veux prendre le voleur sur le fait pour qu'il ne puisse pas nier par la suite.
Alors ? Reprit le brigadier.
Alors, fit sérieusement Mouche, vous voyez ce petit garçon ? C'est mon ami Polo.
Merci du renseignement, je le connais. Ensuite,
demain matin, quand il arrivera en courant pour vous chercher, vous viendrez avec lui à toute vitesse. Vous amènerez tous vos gendarmes et vous verrez le résultat.
Ça tient debout cette histoire ? Insista-t-il, peu convaincu.
Si vous ne me croyez pas, tant pis, nous ramènerons le voleur nous-mêmes. Seulement tout le pays se moquera de vous et les langues d'ici ne sont pas charitables. Il vaut mieux vous en rapporter à moi. Allez, au revoir mes amis, je passerai vous chercher demain à la colonie.
Nous serons prêts. Bonsoir, Mouche.
Bonne nuit, je vous remercierai davantage demain. Et vous, monsieur Cortisol, prévenez bien vos hommes.
Vous en faites pas. Bonsoir, répondit sèchement le brigadier, qui ne savait plus que penser.